vendredi 12 juin sur l'île de Vassivière, le Centre international d'art et du paysage inaugurait l'exposition « La vie à elle-même ». Une exposition collective avec 7 artistes et une commissaire d'exposition. On écoute les mots de Sophie Bertrand, vice-présidente du Centre d'art, lors de l'inauguration.
Déjà, merci d'être là. Et enfin, il y a du public et on ouvre le Centre d'art. Donc, ça, c'est le plus important. On se retrouve pour... Enfin, juste pour le plaisir de se retrouver aussi. Et ça compte. D'autant plus que je rappelle que les musées ont été créés à la Révolution française et qu'on ne les avait pas fermés depuis et que c'est aussi un sens de comment on transmet la culture, de réouvrir les lieux culturels. Voilà, nous sommes réunis ici pour l'exposition La vie à elle-même avec 7 artistes, Isabelle Andrissen, Bianca Bondy, Dora Budor, Tiffen Calmette, Rochelle Goldberg, Laure Vigna, donc 6 femmes, et un homme, Grégory Chatonsky. Ces artistes ont été invités par Flora Katz, commissaire d'exposition.
Pour parler de cette exposition, je vous propose une rencontre avec les artistes qui vous décriront leur travail, un travail qui a mené à cette exposition collective qui évoluera pendant la durée de sa présence au Centre d'art. Flora Katz, commissaire de l'exposition, nous dévoile les sens de cette exposition.
Oui, alors ça fait longtemps que je travaillais avec ces artistes. La plupart du temps, on a déjà fait des projets ensemble. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec des artistes qui, en fait, ont un travail avec des matériaux qui sont poreux, qui réagissent, qui changent, qui se transforment. Donc tous les artistes avaient déjà des œuvres que je connaissais, qui travaillaient cette idée-là. Et voilà, donc c'est pour ça que je les ai invités. Le propos de départ, c'était d'essayer de continuer, de prolonger leur travail de départ, mais peut-être de le rendre un petit peu plus visible en essayant de les rassembler tous sous cette idée d'une exposition qui travaille un peu les limites du vivant.
Ça vient d'où, là? C'est quoi le départ de cette idée d'évolution là, qu'il y a au centre de cette expo?
En fait, en général, une œuvre d'art, elle est faite pour ne pas bouger, être déterminée, fixe, être mise en caisse, rester dans des caisses d'un musée et puis être montrée. Enfin, c'est ça le but d'un musée, c'est de conserver des œuvres qui ne vont jamais se modifier au fur et à mesure du temps. On peut voir une peinture de la Renaissance, elle va être restaurée au fur et à mesure pour avoir les mêmes couleurs qu'avant, etc. Et donc là, c'est vraiment l'inverse. L'idée, c'est que les œuvres, elles se détériorent, elles changent, elles se transforment. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est aussi parce que finalement, on parle beaucoup dans les problématiques de l'anthropocène, on se demande beaucoup comment faire pour changer un peu notre regard, pour arrêter de regarder l'environnement comme un objet qu'on va transformer, modifier à notre gré, mais plutôt comme quelque chose aussi qui est sensible, qui vit. Il y a ce postulat de ce scientifique James Lovelock qui a écrit ce livre qui s'appelle « La Terre est un être vivant ». Mais alors comment est-ce qu'on peut arriver à prouver que la Terre est un être vivant? Comment est-ce qu'on arrive à sentir ces mouvements qui sont très lents ou trop rapides, avec des relations de cause à effet qu'on ne comprend pas trop, entre l'effet de serre? Je ne sais pas, par exemple, si on émet des gaz avec une voiture, ce n'est pas tout de suite que ça va avoir un effet de serre sur la planète. Donc toutes ces relations-là, toutes ces transformations, on peut aussi les rendre présentes, les rendre sensibles. Donc l'idée, c'était de travailler une œuvre qui, du coup, on a appelé ça comme ça, une œuvre sensible. L'œuvre réagit aux aléas de l'environnement, donc elle est aussi contingente, c'est-à-dire qu'elle se transforme. On ne va pas nécessairement savoir exactement comment est-ce qu'elle va se transformer. On accepte aussi que l'environnement agisse sur elle, et donc l'artiste n'est pas nécessairement maître toujours de l'œuvre. Et ça, c'est un rapport à deux, à plusieurs, qui se crée en fait avec l'œuvre. L'œuvre, elle est poreuse à tout ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un peu spécial. Et en même temps, on dit aussi qu'on objectifie les gens, les choses en permanence, qu'il faut essayer d'avoir un autre regard sur elles, que ce soit un arbre, mais aussi une chaise ou un poisson, enfin peu importe. Peut-être essayer d'avoir une relation un petit peu plus circulaire avec les choses, de comprendre que même une chaise, quand elle est posée sur ce sol, et ben, elle a une action sur le sol. Là, le soleil est en train aussi de modifier la couleur de cette chaise. Enfin, toutes ces micro-réactions qui se passent en permanence sont importantes. Et peut-être que cette exposition, elle aide à mieux appréhender cette transformation.
Donc là, on vient voir l'exposition maintenant et on revient plus tard.
D'accord, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, bon, alors une des transformations assez visibles, ça va être les graines de chia que Rochelle Goldberg a plantées, enfin, a posées sur son œuvre dans la nef. Donc elles vont éclore dans quelques jours et je pense que d'ici 2 semaines, ça devrait prendre une couleur normalement verte, mais bon, ça peut peut-être être autre chose. Et c'est aussi une exposition dont on va devoir prendre soin. C'est-à-dire que tous les gens du centre d'art vont devoir arroser, prendre soin des cyanobactéries qui prolifèrent dans les œuvres en verre de leur vigna, voir si la souche d'arbre est bien arrosée aussi de Grégory Chatonsky. Pareil pour l'œuvre de Bianca Biondi qui est dehors, qui a plein de végétation. Donc c'est une exposition dont il faut prendre soin aussi.
Merci.
Isabelle Andressen, accompagnée à la traduction par Mike Abbott.
In this exhibition, I'm showing 2 pieces.
Dans cette exposition, je montre 2 œuvres.
And one is located in the tower, which is, I think, very characteristic space designed by Aldo Rossi.
Le premier œuvre, il est dans le phare, qui est un espace très caractéristique de Aldo Rossi, l'architecte.
So the 2 pieces that I show in the tower are called nocturnals.
The 2 pieces, les deux morceaux montrés dans la cave, ils s'appellent Nocturnel.
The work, so when you come in, you see it's pretty dark because there's basically only light coming from the top of the tower.
Donc quand vous entrez, c'est sombre parce qu'il y a que de lumière qui pénètre de le toit du phare.
And so when you enter the space, slowly your eyes adjust to the space, and then you'll see 6 bars, quite low, like knee height.
Donc quand vous entrez, vos yeux ajustent à la lumière sombre, et par terre il y a 6 barres de fer.
And on those bars are 2 ceramic sculptures separate from each other. I think they're both about 170 meters.
Donc posé sur les barres, il y a 2 sculptures en céramique.
En
céramique. De taille à peu près 1 mètre, non, c'est
1,07 m.
1,70 m, ouais.
Oui. From the ceramic sculptures, there is a crystal chemical growing on the surface over the duration of the exhibition.
Donc sur la surface de les céramiques, il y a une matière cristalline qui grandit au gré de l'expo, pendant l'expo.
On top of the sculptures, there are 3 aluminium elements that are connected to a cooling system.
Donc il y a 3 éléments en aluminium qui est lié à un système de cooling system, oui, c'est ça, oui, enfroidissement, oui, voilà, un système d'enfroidissement, voilà, bah, bravo, ouais.
And this system, the work is very much about systems. So the aluminium forms droplets on the surface because the aluminium is about 4 degrees Celsius. And therefore, it's contracting.
Et donc l'aluminium, il est à combien? How many degrees?
4 degrés.
Et donc il y a des gouttes d'eau qui forment sur la surface, qui tombent, je suppose, oui, qui tombent.
And by doing that, the humidity and the moisture that comes from the aluminium falls into the sculpture and is being absorbed by the ceramics.
Donc l'eau y tombe et ça absorbe par les céramiques petit à petit. Ouais.
Why I make these works is that I want to make sculptures that are not static, that are like animated objects that over time act out a performance.
Donc je voudrais créer les sculptures qui sont dynamiques, qui changent avec le temps.
Bianca Bondy.
Alors, donc, j'ai réalisé une œuvre qui est en deux parties, comme un reflet miroir, une sorte de yin et yang. C'est une œuvre qui s'appelle Synonyms for Sinkholes. Les sinkholes, c'est des gouffres. Donc, Synonyms for Sinkholes, The Hours That Pass Devour Us. Et on voit à l'intérieur une canapé couverte de ce qui ressemble à une sorte de toile d'araignée, et elle a un puits sur un des coussins. Dans cette puits, il n'y a que des pièces de cuivre, et la scène elle est inondée de sel, et le sel devient de plus en plus turquoise, comme cette puits. Après, on a trois miroirs qui déclinent dans une cercle, et un quatrième miroir qui est posé au sol. On a des objets variés sur les tables, des bougeoirs, une cendrée en forme de cœur, une clope à moitié fumée, la courrier qui n'a pas été ouverte, une bouteille, une verre et une boule de voyance. Après, si on compte les ronds, entre le puits, la boule de voyance et tous ces miroirs en rond, on arrive à 6, qui est pareil pour la scène à l'extérieur et c'était pensé comme une horloge. Vu que l'expo, elle n'a pas de l'éclairage, c'est que de l'éclairage naturel, en semi-lune. J'aimais bien cette idée que la pièce va s'activer avec la lumière. Donc j'avais pensé ces miroirs pour refléter la lumière, mais aussi ces objets en verre. C'est pour ça que les bougeoirs, ils ont des morceaux de cristal. Après, à l'extérieur, on a la même scène en double, inversée. Sauf que dans cette scène, tout est envahi par la nature. On a de la mousse, des plantes, des fougères. Et dans cette puits, on a de l'eau et des plantes aquatiques. Alors, tandis qu'à l'intérieur, tout est en train de devenir de plus en plus turquoise et plus humide, parce que c'est en train d'asperger le liquide de la salle d'humidité, et faire une oxydation, une réaction moléculaire. La scène à l'extérieur, c'est une autre forme de vie, c'est une vie on ne peut pas dire organique, mais c'est une vie de plantes, d'insectes, de bêtes, d'oiseaux. Et j'avais pensé les deux comme on montre l'absence humaine. Et on sait que quand l'humain n'est pas présent, tout de suite la nature envahit, si l'endroit est sain. Et si c'est le contraire, ben on a des auréoles de métal, d'oxyde qui commencent à apparaître et tâcher. Et ça m'a intéressé de montrer ces deux scènes, donc l'absence d'humain et la vie hors nous. Une vie et autre. Oui, voilà.
Les œuvres, comment elles réagissent entre elles?
Entre elles, oui.
Entre toi, la tienne, elle réagit comment, par exemple?
Alors, il y a 800 kilos de sel. Donc déjà, si on est sensible, c'est quand même un effet déjà corporel. C'est quand même, on le sent, les cheveux deviennent un peu plus bouclés. C'est quelque chose d'assez tactile. Alors en fait, le sel, c'est hygroscopique. Ça veut dire que ça aspire toute l'humidité qui est dans l'air. Donc le sel, il est en train de devenir de plus en plus mouillé. Mais aussi, le sel, il est connu pour ses propriétés antibactériales, de préservation, et aussi que ça nettoie les ondes. Donc si on veut partir dans cette dimension-là, elle est en train de faire un nettoyage d'ondes dans la salle. Mais littéralement, si on peut dire ça, elle est en train de devenir plus humide. Et donc les métaux qui sont présents dans mes objets, ils vont à fur et à mesure oxyder, faire des petites sortes de poussées de cristaux. Autrement, toutes les pièces qui sont dans le canapé, elles vont rendre l'eau de plus en plus turquoise. Donc c'est ce genre de changement qui se passe.
Et de l'autre côté du miroir, ça, qu'est-ce qui va...
Alors il y a certains plantes qui vont faner parce que ils ont été prises, enfin ils sont plus dans leur endroit naturel, même si tout est local et je tenais à ça. Mais par exemple les mousses, s'il y a trop de soleil, voilà. Donc il y a certains plantes qui vont plus tenir. Et j'ai semé des graines, j'ai semé des plantes, donc il y a d'autres qui vont arriver. Et surtout, il y a déjà tout un assortiment de bêtes, et j'espère qu'il y aura de nouveaux. Après, je me suis aussi positionnée à cet abri où il y avait des marques au sol, des oiseaux qui s'abritent, en me disant ils vont sûrement revenir, et là, il y a de quoi les nourrir. Et même de les faire boire, parce qu'il y a cette pluie de plantes aquatiques dans le canapé.
Oui, merci.
Voilà. C'est pas une mangeoire d'oiseaux, mais c'est une œuvre pour...
Non, mais celle-là, elle est ouverte au grand air.
Oui, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup.
Merci.
Tiphaine Calmette.
Alors en fait, c'était prévu depuis le départ qu'il y ait un enchaînement de l'expo personnelle avec l'expo de groupe, mais au début, ça devait être d'abord l'expo de groupe qui se transforme en expo personnelle.
Okay.
Et puis avec le Covid, ça a changé de sens. Donc finalement, il y a eu plusieurs rebondissements. Mais dans tous les cas, il y avait une pièce qui est la peau de kombucha, qui était prévu comme étant une pièce qui allait s'installer dans la durée et durée, donc s'étaler sur deux temps d'exposition. Donc ça, c'était vraiment prévu au départ. Et face à la matière, en fait, j'ai décidé, j'ai un peu modifié mon plan d'action, c'est-à-dire que donc, c'est une peau de kombucha. Donc le kombucha, c'est une boisson fermentée originaire d'Asie et de Russie. Qui est à base de thé sucré et donc qui forme une peau un peu comme une peau d'une mer de vinaigre. Et aujourd'hui, il y a des recherches en biotextile qui travaillent à partir de cette matière-là pour en faire un cuir et pour faire des vêtements ou essayer de voir comment on peut utiliser des matériaux qui ne sont pas issus des animaux pour faire du cuir, par exemple. Donc une peau, mais qui serait une peau plus végétale ou quelque chose qu'on associerait plus à un champignon. Voilà. Et donc, il faut qu'elle s'épaississe suffisamment pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse être travaillée après. Et elle s'épaissit, évidemment, dans le temps. Et donc, dès le départ, j'avais prévu de placer un cintre au-dessus et de venir placer la peau dessus. Et mon pari, c'était de dire la partie qui va être hors de l'eau va sécher, alors que la partie qui reste dans l'eau va continuer à se développer, parce que ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est que c'est homothétique. Ça prend la taille de son contenant. Donc plus on met un contenant grand, en fait la pellicule va se créer, la peau va se créer à la surface de l'eau. Et donc mon pari, c'était que la partie qui allait rester à la surface de l'eau allait continuer à se développer, tandis que la partie qui allait sortir de l'eau allait sécher. Et donc ça allait créer comme ça un espèce de tissu infini qui allait pouvoir se développer aussi dans l'axe vertical en tirant le cintre attaché lui-même à une poulie. Voilà. Et donc pour l'exposition, la mienne, j'ai décidé de laisser en fait la peau se développer, ce qui a produit comme un espèce de tableau un peu abstrait qui se modifiait en fait qui s'est modifié pendant tout le temps de l'exposition, qui s'est épaissi, qui a changé de texture, elle est passée du brillant au mat. Il y avait aussi un rapport d'odeur aussi très présent parce que plus elle fermente, plus c'est vinaigré et il faut la nourrir toutes les 2-3 semaines, et dès qu'on la nourrit, l'odeur s'adoucit et devient plus suave et plus sucrée. Et donc j'ai décidé que pour le deuxième volet de son existence dans la deuxième expo, je vienne la placer à ce moment-là sur le cintre, et que la deuxième expo serait le début de l'élévation de la peau. Voilà. Et concernant la nef, donc c'était pas prévu au départ, mais après avoir visité l'exposition, Flora a décidé de garder les modules en terre qui étaient présents dans mon exposition personnelle. Elle a décidé d'en garder 4 sur 5 et a enlevé celui du milieu. Et donc l'idée, c'était de pouvoir s'en servir aussi comme, comme faisant partie de l'architecture elle-même, et que les artistes puissent interagir avec et qu'il puisse y avoir des interactions entre leurs œuvres et ces modules en terre qui ont, avec lesquels on peut jouer, parce que la terre, ça, si on la mouille, vu que c'est de la terre crue, ça se défait. À la fois, on peut s'asseoir dessus, à la fois, c'est praticable, et à la fois, on pouvait s'en servir comme socle et venir potentiellement poser les objets des autres artistes dessus. Donc ça a permis aussi, pour moi, ça leur permet aussi de leur donner une deuxième vie avec une évolution. Voilà, ils ont existé un peu dans leur première apparence pendant l'exposition personnelle, et là, ils ont une deuxième version. Voilà.
J'ai envie de revenir sur le kombucha.
Oui.
Parce qu'on en a parlé dans son Sondeline, notamment. Alors, ça a marché, le soulevage?
Ouais, carrément. Et bah, tu vas aller voir. Ouais,
j'avais demandé qu'on m'appelle quand il soulevait, je voulais vraiment voir ça.
Ah mince, ok. Ça a plutôt bien marché. Après, on y va doucement parce que c'est extrêmement fragile comme surface. C'est vraiment très très fragile. Donc là, on a fait une première élévation et puis on fera les prochaines tout au long de l'exposition. Voilà, donc il va y avoir vraiment une évolution extrêmement visible là pour cette pièce.
Et il y avait quelque chose qui m'avait... Tu dis, on cultive un être vivant et
ouais.
Après on le soulève et on le fait sécher. On le regarde mourir, c'est un peu...
C'est pas... Enfin oui, mais bon, tout est cyclique dans la vie. On peut pas oublier la mort, en fait. Et ouais. Puis après, il faut pas prendre ça comme ça. Il faut prendre ça aussi comme une deuxième vie. C'est-à-dire que les choses évoluent et se transforment. Et si on prend la peau après comme un matériau de fabrication, c'est comme quand on va tuer un mouton. Si c'est pour le manger, c'est une transformation. Il va venir nourrir nos corps, il va venir nous donner de la force. Et puis par ailleurs, on va utiliser sa peau pour nous habiller, et puis on va utiliser sa laine, etc. Donc il y a juste le passage d'un corps à un autre, ou aussi la transformation de corps en forme d'outil. Et donc là, pour le kombucha, c'est un peu aussi dans la même idée. C'est pas juste l'idée de faire grandir des choses pour les faire mourir, et tout ça pour rien, mais juste aussi comprendre la matérialité de différents vivants et de voir comment on peut travailler leur plasticité, comment on peut les faire évoluer. Et puis aussi, tout d'un coup, en fait, en habitant ce centre, il vient aussi prendre une présence très fantomatique et très anthropomorphe, qui lui donne aussi une présence en tant que vivant. Et y a cet être, en fait, qui surgit de son bassin et qui vient habiter aussi. Donc quelque part, ça amène peut-être aussi à considérer cette peau comme une présence, là où on aura plus de mal quand elle reste plate et dans son bassin.
Grégory Chatonski.
Par contre, il s'agit d'amener un morceau de l'île à l'intérieur du centre, et en particulier tout simplement les arbres, et les arbres qui ont cette caractéristique de vivre et de mourir. Et quand ils meurent, les arbres deviennent des habitats pour d'autres organismes. Donc par contre, ces arbres un peu pourris sont des arbres qui sont à la limite du vif et du mort. Donc j'ai amené ces organismes-là dans le centre, dans différents états de dégradation. C'était que des arbres qui étaient déjà coupés, abîmés, ainsi de suite. Donc dedans, il y a des insectes, il y a de l'humidité, il y a de la mousse, il y a différentes choses. Donc déjà, cette idée de mort et de vif, ça m'intéressait. Parce que ça vient brouiller, quand on dit la vie à elle-même, c'est peut-être la mort. C'est ça, la vie à elle-même. C'est la vie qui se transforme. Ça peut sembler contradictoire. Souvent, on oppose les deux. Et sur ces organismes, j'ai greffé des capteurs qui captent l'humidité, la présence, les vibrations, différentes choses. Et ensuite, toutes ces transformations, ces modifications sont amenées dans la salle d'en haut, dans une salle en haut, il y a un film qui est généré en temps réel. Et ce film, alors, est très particulier. Il est totalement généré par une intelligence artificielle, un réseau récursif de neurones, qui sont des systèmes, alors quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait un peu peur, puis on ne comprend pas très bien ce que c'est. Mais c'est quoi une intelligence artificielle? C'est un système qui calcule des statistiques, tout simplement. Donc imaginons, on lui met 5000 images d'oiseaux, et il arrive à créer une image d'oiseau que nous, êtres humains, on reconnaît comme oiseau, mais qui est un oiseau qui n'existe pas, parce qu'il a calculé tous les pixels et ainsi de suite. Et donc dans ce film, j'ai nourri une intelligence artificielle d'images, de textes, de livres et d'encyclopédies de sciences naturelles du 19e siècle. Donc comment on racontait? C'est ce moment du 19e siècle très bizarre où les êtres humains ont commencé à vouloir complètement, totalement quadriller le monde et le vivant, tout classifié. Et donc j'ai nourri cette intelligence artificielle avec des milliers et des milliers d'images, de livres, etc. Et ensuite, selon ce qu'il y a dans les capteurs, elle va générer des vies alternatives. Donc des oiseaux qui n'existent pas, dans le style un peu du 19e, des papillons. Et parfois, il y a des images fixes qui sont générées par cette intelligence artificielle. Et là, il y a une autre intelligence artificielle qui va essayer de décrire cette image. Donc elle fait des erreurs parfois. Et elle les décrit dans le style du 19e siècle. Et donc on se demande pourquoi elle fait des erreurs. On essaie de comprendre comment elle voit cette image. Donc c'est un travail sur le vif, le mort, comment l'un et l'autre se greffent l'un sur l'autre. Et puis moi, l'un de mes objectifs, c'est vraiment de brouiller au maximum, de rendre incertain la frontière entre ce qu'on croit être la nature et ce qu'on croit être la technique. Car soit il s'agit de techniciser la nature, soit de naturaliser l'art, de naturaliser la technique, parce que les deux font partie du même monde. La technique n'est pas extra-naturelle. Elle est une expression de la nature comme une autre, d'une nature transformée, mais la nature ne cesse de se transformer.
Rochelle Goldberg, accompagnée à la traduction par Mike Abbott.
J'ai décidé de faire un travail qui fonctionne, comme un petit oracle. Je suis très intéressant avec les ideas surrounding.
Les idées autour.
Paysage, landscape. So at the start of the exhibition,
au début de l'expo,
Tiffan's work was occupying the space, and I decided to respond to Tiffan's piece as if it was a landscape as opposed to discrete artworks.
Elle a décidé de répondre à d'autres œuvres dans l'expo.
And the idea of a material oracle would be a leak into the landscape that would also leak into the future materiality.
Donc c'est une sorte de fuite de liquide dans le paysage qui va transformer la réalité après.
And so I used materials that directly engaged with the landscape.
Donc j'ai utilisé les matériaux qui ont lien direct avec le paysage.
As well as materials well known to the region.
Aussi les matériaux de la région.
And then combine that with seeds that would speak to the reproduction of the landscape as well as its further growth.
Donc j'ai ajouté les graines qui a réagi avec le paysage dans le sens de vie.
C'est tout.
Voilà. That's it. C'est tout. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci, merci.
Merci pour l'effort en français.
Je sais, mais I'm shy.
Laure Vigna.
J'ai travaillé en fait un peu en miroir. J'ai créé deux ensembles de sculptures, un ensemble en osier, structure en osier avec une matière organique en bioplastique que je fabrique moi-même avec des extraits de microalgues. Donc trois sculptures pour un ensemble, et ensuite des sculptures en verre soufflé, et j'en ai créé quatre dans lequel viennent évoluer des cyanobactéries. Et en fait, tout est un petit peu parti de là à la base. Quand on a eu l'invitation pour travailler dans le centre d'art et sur le territoire de l'île de Vassivière, j'avais vraiment cette envie de travailler avec j'ai vraiment une attention aux matériaux dans mon travail de sculpture en général. Et je voulais vraiment travailler avec des matériaux locaux. Et aussi en collaboration aussi avec des artisans et artisanes. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé pas mal d'articles en fait dans les journaux locaux l'été, par les fortes chaleurs et le réchauffement climatique, il y avait de plus en plus de cyanobactéries qui venaient contaminer les lacs alentours, et dont le lac de Vassivière en fait, il y a quelques années il me semble. Donc en fait, j'ai commencé à faire des recherches sur les cyanobactéries, et du coup tout est un petit peu parti de là. Les bactéries sont à l'origine de la vie sur Terre. Enfin, c'est comme ça que tout a évolué, voilà. Et les cyanobactéries font partie des plus anciennes qui existent et qui existent encore en fait, qui ont vraiment survécu toutes les périodes, et qui, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'elles sont extrêmement résistantes et en même temps extrêmement sensibles, et qu'elles vivent dans plein de milieux très différents. Elles peuvent vivre au fond d'un volcan, comme dans la glace en Antarctique, comme dans le lac de Vassivière. C'est la première fois que je travaille avec des bactéries, mais j'avais vraiment envie de travailler avec elles, et aussi comme un matériau, mais enfin travailler avec un organisme quoi, et qui créerait lui-même ses propres formes. Et d'où en fait les sculptures en verre soufflé pour accueillir ces sculptures, ces cultures, pour qu'elles puissent se développer. Et donc il y en a trois souches différentes de bactéries, donc qui ont des aspects, des couleurs différentes. C'est l'ancêtre des algues, donc c'est vraiment très proche des algues. Et elles sont plutôt filamenteuses, et elles vont évoluer au fur et à mesure et colorer le verre et créer des formes. Et les formes des sculptures en verre sont assez spécifiques, puisque en fait j'avais aussi envie de travailler tout ce rapport, comme le bâtiment de l'île, du centre d'art de l'île de Vassivière joue beaucoup avec les intérieurs et extérieurs, que je voulais aussi travailler en miroir entre des sculptures en osier, des sculptures en verre soufflé, des matérialités différentes. Et donc du coup, les sculptures en verre soufflé ont des formes avec des caractéristiques topologiques, c'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur se confondent. Enfin, un peu le principe du ruban de Möbius, en fait, où il y a une seule et même surface. Donc comme un espèce d'organisme dans un autre organisme, comme ça, qui s'auto-alimenterait, s'auto-digérerait. Et comme dans mon travail de sculpture, je m'intéresse beaucoup aux formes en transition, du coup ces formes-là viennent vraiment incarner la transformation de la matière. Donc c'est un peu comme une sorte de labyrinthe, oui, topologique, dans lequel elles évoluent, et le rapport aussi avec les sculptures en osier donc ont des pots en matière plastique que je fabrique, dont un certain composant qui est l'agar-agar, et qu'on utilise beaucoup aussi en biologie pour faire évoluer des cultures. Donc il y avait aussi tout ce rapport de matière qu'on voit pas, qui évolue à l'intérieur et à l'extérieur des sculptures, et qui est d'un côté prolifère vie comme les cyanobactéries, et à contrario celles qui sont à l'air les bioplastiques qui se dégradent puisqu'ils réagissent à l'environnement direct. Donc le taux d'humidité qui a énormément changé avec toutes les sculptures et installations des autres artistes dans la salle principale. Donc comme c'est des matériaux très poreux, ça vient se gorger d'eau ou bien si c'est très sec, se dessécher. Dans tous les cas, il y a des casses qui se forment et donc créer des nouvelles formes comme ça.
Merci. Tu es biologiste ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout biologiste, mais je m'intéresse... Je considère mes sculptures aussi comme des organismes vivants avec lesquels je travaille, donc je m'intéresse beaucoup à la biologie. Et je lis beaucoup de choses, mais je ne suis pas du tout une spécialiste. Et aussi, pour cette exposition, j'ai travaillé... j'avais envie de fabriquer aussi une bière, de travailler directement aussi avec des bactéries. Et du coup, j'ai travaillé avec Raphaël Trappé à la Renouée. Et lui est biologiste. Et du coup, c'était hyper intéressant aussi tous nos échanges qu'on avait quand on fabriquait cette bière et de moi aussi, de mes manipulations dans l'atelier. Et du coup, il y a vraiment eu un rapport un peu direct comme ça qui s'est créé et voilà. Mais non, je suis pas biologiste. J'aimerais bien.
L'exposition La vie à elle-même est visible au Centre international d'art et du paysage de Vassivière jusqu'au 5 septembre. Vous l'aurez compris, cette exposition évolue avec le temps. Chaque visite sera différente.